Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, je reçois Khaled Roumou. Vous êtes poète, vous êtes écrivain, essayiste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages. Et vous êtes engagé dans le dialogue interreligieux. Vous animez plusieurs cercles de débats, de controverses, de confrontations d'idées pacifiques. Et aujourd'hui, nous parlons de l'amour. L'amour, le Coran, la révélation coranique déchiffrée selon l'amour. Et de nos jours, beaucoup pensent que islam et amour sont oxymoriques. Donc il y a une réelle contradiction. Et peut-être qu'en passant cette heure ensemble avec vous, vous allez nous dire plutôt le contraire. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à composer votre ouvrage « Le Coran déchiffré selon l'amour » aux éditions Koutoubia ?
C'est les événements de 11 septembre, en réalité, qui furent le déclenchement, parce que j'ai un ami, professeur de théologie protestante et d'islamologie à Strasbourg. Et après les événements, étant donné tout ce qui a été dit et pas dit, il m'a dit « Est-ce que tu veux donner une conférence disant que l'islam est-ce une religion d'amour ?» Alors je voulais pas être sur la défensive, je lui ai dit « Oui, à condition que toi tu fasses une conférence, le christianisme est-ce un monothéisme ?» N'est-ce pas ? C'est les préjugés que les chrétiens et les musulmans s'envoient à la face. J'entends des activistes. Et donc j'ai fait cette conférence et le livre est vraiment le développement de cette conférence parce que plus tard j'ai rencontré l'éditeur de Koutoubia à qui j'ai montré le texte de ma conférence et il m'a dit « Vous en faites un livre ». Et ben c'est ça.
C'est le produit de votre livre et la conférence eut lieu à l'université de Strasbourg.
C'est ça, oui. Bien. C'est ça.
Vous voulez déjà dire, en préparant cette émission ensemble, vous disiez, Khaled Roumou, que l'amour a l'air d'être galvaudé, mais en réalité, il y a une incarnation d'amour, de bonté et de miséricorde dans la vie de tous les jours, y compris chez les personnes qui ne reconnaissent pas une transcendance personnelle, qui ne croient pas en Dieu. Il y a de l'amour chez ces personnes.
Mais à vrai dire, si on part toujours de l'humain vers la transcendance, qu'elle soit reliée à une religion ou pas, on va s'apercevoir que cette incarnation est réelle, parce que c'est le mot que vous utilisez. Mais pour cela, il faut beaucoup d'humilité et de simplicité. J'ai déjà, dans le cadre de mon travail, dans le dialogue des cultures, dans ma carrière, je suis tombé sur des personnes, cadres d'entreprise, acteurs sociaux et culturels, qui avaient tendance à renier leurs origines modestes parce qu'ils sont devenus cadres, etc. Et en creusant un peu ensemble, je les aidais à voir que les valeurs fondamentales qu'ils ont et qu'ils ont développées grâce à la culture étaient issues de ce milieu simple et modeste. Mais il y a une telle pression, quand on est dans des lieux de prestige, qui nous fait oublier la valeur de cet héritage. Et là, c'était les Français d'adoption, comme les Français d'origine, qui succombaient à cette pression. Et donc, sans cette humilité, cette simplicité, vraiment, on passe allègrement sur la présence de l'amour incarné en nous et on perd les occasions de l'enrichir, de le développer et de lui rester fidèle. Et c'est pas relié forcément aux religions. Et comme j'ai fait littérature française, et c'est ça, je crois, la clé de lecture que j'utilise pour aborder les écritures dites sacrées, eh bien, la littérature aide beaucoup à discerner la présence de cet amour.
Pourtant, vous dites que l'amour est indicible, il relève de l'ineffable. Est-ce à dire que l'amour est expérientiel avant d'être exprimé ou par écrit ou par l'oralité?
Le mot indicible que j'ai utilisé n'est pas de moi, il est de Ibn Arabi, et il dit si l'amour est, je paraphrase, si l'amour est consommé et goûté, son essence est indicible.
Rappelons simplement qu'Ibn Arabi est né en 1165 à Murcie, mort à Damas en 1240. a fait le voyage comme ça d'Occident vers l'Orient. Et il est considéré comme le plus grand mystique, hein, le docteur Maximus, disent les auteurs latins. Et donc pour lui, et vous reprenez l'expression, l'amour est indicible, son essence est indicible.
Voilà, c'est un vers de poésie là qui est traduit en français comme ça. Et il y a Semnoun aussi, un soufi qui a vécu à Bagdad, je ne sais plus en quel siècle. Il dit, pour exprimer une chose, il faut toujours trouver un outil plus subtil que la chose elle-même. Or, l'amour est la chose la plus subtile. Peut-on vraiment en parler? Donc voici deux auteurs de culture musulmane qui disent la chose, mais alors, comme j'ai navigué dans les cultures universelles pour mon plaisir, pas pour la frime ni la recherche, il y a Duras, notre auteur, qui dit que l'amour ne peut provenir que d'une faille, une faille dans l'univers, mais ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être une maladie. En tout cas, elle dit que dans son livre « La maladie de la mort », s'il n'y a pas cette faille, il n'y a pas d'amour. C'est un très beau livre, un texte très court dont je conseille la lecture. Il y a un homme qui est incapable d'aimer parce qu'il est atteint de la maladie de la mort. Ça, c'est l'expression de Duras. Plus tard, je tombe sur un livre, le livre du thé, d'un intellectuel japonais 19e, 20e siècle qui critiquait la civilisation moderne dans son incapacité à saisir les subtilités de l'âme humaine. Et il cite un proverbe japonais qui dit « Un homme orgueilleux ne peut pas aimer parce qu'il n'y a plus de place en lui pour une autre présence. » Donc, tout cela réuni me rappelle un mot arabe qui est « kalam » à la racine, de trois consonnes, qui veut dire à la fois parler et blesser. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait le rapprochement pour dire que il y a une blessure d'amour ontologique qui rappelle l'autre racine aussi, fatara, qui existe en hébreu, c'est-à-dire la création est une rupture, est une séparation des cieux et de la terre. Et alors la terre a la nostalgie du ciel, et c'est à partir de cette nostalgie que naît le sentiment amoureux, donc c'est une blessure au cœur qui est permanente.
Le verbe fatara étant à la fois créé et séparé, comme vous dites si bien, donc le créateur est aussi séparateur.
Ben exactement, exactement. Et alors tous les nostalgiques de Dieu vers le passé et vers l'avenir disent cette douleur, alors de quelque religion qu'il soit, ou parfois sans religion, qu'ils l'appréhendent à la manière de Baudelaire, par exemple, ou de Verlaine. On trouve ces accents dans leur...
Et pour revenir à cet orgueilleux qui ne laisse pas de place à autrui, donc il est incapable d'aimer, ça rejoint cette idée que celui qui est incapable d'amour est un handicapé du cœur.
Ben tout à fait, d'autant plus que le cœur, allons vers l'arabe, a plusieurs noms en arabe, dont qalb. Qalb, c'est le fait de tourner. C'est-à-dire, notre cœur est toujours en mouvement et il se tourne du côté de ce qu'il croit être son lieu d'attachement. Alors, il tombe parfois sur de mauvais attachements qui le handicapent avec le temps. Et c'est ça qui le rend incapable d'aimer.
On peut rester dans les considérations un peu plus globales à propos de l'amour. L'amour... humain, l'amour avec l'attrait physique, l'amour pour sa propre famille et ses proches, et puis pour ses semblables. Mais ce qui nous intéresse, le mais n'invalide pas ce que nous avons dit dès le début, mais ce qui nous intéresse, c'est votre lecture, votre décryptage, vous déchiffrez le Coran à l'aune de l'amour.
Oui, mais toujours cette lecture qui va de l'humain vers le divin. Si Dieu n'était pas cette source d'amour, qui est la vie? Je vais dire quelque chose qui peut paraître énorme, mais il est très simple. Pourquoi s'encombrer d'une foi ou d'une croyance? Ce serait un poids de plus à porter dans cette épreuve qu'est la vie. Mais cela, il faudrait être sincère et dire « on ne peut ». En parler que si vraiment on a une expérience Alors, cette expérience nous échappe. On est visité, il y a une présence. Ça arrive à un certain moment de la vie. C'est pas un héritage familial. C'est pas le fruit de lecture. C'est des instants existentiels intenses, très forts, qui nous coupent de ce qui est formel, habituel, etc. et nous propulsent tout en restant sur terre et sans entendre les voix des anges ni le bruit de leurs ailes pour appréhender l'existence autrement. Et une fois qu'on est relié à cette dimension, on voit les choses autrement. Et alors, on lit autrement la révélation. Par exemple, on peut mille fois passer sur le verset qui décrit le Coran, comme je le dis en arabe pour les arabophones, Ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm. La traduction, c'est des preuves d'amour évidentes données par Dieu à ceux à qui le savoir a été offert. Donc, si on a l'expérience de Dieu, on va trouver que le Coran est dans nos cœurs. Tel que le verset le dit, il se présente comme ça. Autrement dit, si je comprends le livre, c'est parce que je l'ai en moi. Et le livre, parfois, me rappelle des choses qui dorment en moi. Donc, il y a une interaction. Et ce qui veut dire que la valeur, avant tout, est accordée à l'être humain, mais pas à la parole divine, à moins que l'être humain ne soit lui-même la parole divine, le Verbe. C'est-à-dire, Jésus est donné comme un exemple, mais chaque être humain doit s'identifier sans perdre son identité à des figures, à de grandes figures, sans pour autant qu'ils deviennent envoyés de Dieu ou prophètes, mais ne serait-ce que pour gérer sa propre vie. Il est l'envoyé de Dieu pour soi-même. Il faut qu'il assume sa propre responsabilité dans l'existence. Et c'est dans ce sens-là que on vit cet amour qui n'est pas de tout repos.
Et c'est pour ça que vous évoquez les quatre dimensions de la lecture amoureuse, finalement, de la révélation coranique. Vous parlez d'intériorité, d'infinitude, d'antériorité et d'évolution.
Oui.
Alors, ce sont des phases successives ou c'est une approche multidimensionnelle. On a un polyptyque à quatre volets.
C'est-à-dire, vraiment, je n'ai rien inventé. J'ai essayé de lire le Coran et l'intello que je suis, je ne peux pas échapper à mon sort. J'ai essayé de formuler les choses dans un langage de notre époque et en français. Alors l'intériorité, l'expérience nous dit qu'il n'y a pas de création sans intériorisation des choses. Et chacun pour soi. Ici, c'est le contraire de l'égoïsme. C'est l'extrême responsabilité de ce qui nous traverse. En être le berger, le pasteur. Et donc si je vais calquer mon expression sur quelqu'un d'autre, quelle que soit son importance, je ne serai pas moi-même. Donc intériorité. Après, quel est l'autre terme? J'ai oublié.
Ben, c'est l'infinitude.
L'infinitude. Donc l'infinitude, je vais dire mon cher Aleb pour pouvoir dire les choses comme elles sont. Et je le dis d'une manière littéraire, il faut percer le temps des deux côtés, du côté de la provenance et du côté de l'aboutissement. Mais vraiment percer le temps et imaginer que notre arrivée sur Terre est un instant qui a été précédé par une conscience, une présence. Ça, on peut faire cette expérience soi-même, si on est attentif. Mais quand on trouve, par exemple, dans un livre d'histoire des religions de Mircea Eliade, que beaucoup de traditions spirituelles croyaient à la préexistence. Et quand par hasard vous tombez sur un verset coranique où Dieu s'adresse aux humains, d'après le Coran, et il nous dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» et nous répondons « Si », c'est-à-dire il s'est montré à nous.
Certes, nous en témoignons.
Oui, et donc nous l'avons vu et nous n'arrivons pas à oublier cette vision qui transforme notre... Et toutes nos douleurs proviennent du fait qu'on n'arrive pas à la reproduire par nos propres moyens.
Alors pardonnez-moi, Khaled Lobo, oui. Là je vous interromps uniquement pour dire que d'aucuns disent « Mais nous ne nous sentons pas engagés par cette réponse du « nous » qui universalise les hommes. Certes, nous en témoignons. Là, vous prenez un verset coranique et vous faites de l'autoréférence. D'autres, conformément d'ailleurs à ce qui se passait à Bagdad, dans la maison de la sagesse que vous évoquez, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de prendre ses propres références comme base de discussion, et ce « nous » qui engage l'humanité n'est relaté que par le Coran.
Merci de le rappeler, Aleb Mejedi, d'après le Coran. Vous savez, j'anime un atelier qui s'appelle « Entrer dans l'intimité de l'univers coranique ». Et il y a tout le monde, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées. Et j'ai un auditeur chrétien, super intello, qui me dit des choses sur Marie incroyables. Alors j'ai dit oui, j'ai entendu des vertes et des pas mûres de la part des juifs, des chrétiens, des musulmans et des athées sur Marie. Mais moi, je vous présente Marie selon le Coran. C'est tout. Donc là, mes propos, vraiment, j'essaie de lire le Coran à partir de ma propre subjectivité, je l'avoue. Et d'ailleurs, dans mon livre, là, vous m'obligez à ouvrir une parenthèse nécessaire, je parle de vision du monde. Vision du monde, c'est-à-dire tout être humain qui cherche un sens à sa vie. Mais honnêtement, quelle que soit sa référence, qu'il soit relié au divin ou pas, va pouvoir s'enrichir des sens que les autres trouvent à leur vie. Et vous rappelez les cercles de controverse à Bagdad, je suis ravi. Moi, j'ai pris comme, si vous voulez, deux compagnons de route pour écrire le livre. J'ai pris Ibn Arabi et Proust. Proust, que je sache, dans sa recherche, alors j'ai le temps perdu, il ne cite pas le divin, mais il a des passages, mais qui sont vibrants de je ne sais pas quoi. En tout cas, dans le dernier tome, il y a deux pages sur une expérience, moi je dis d'extase, où le personnage dit « la mort me devient indifférente parce que j'ai connu cette félicité qui est d'ordre naturel, qui est reliée à la beauté de Venise, des arbres, du ciel, de l'art, etc. » Donc, cette percée du temps du côté des origines et cette vision de la beauté, de la bonté, enfin l'absolu de beauté, de bonté, d'amour, etc., c'est la version coranique. Et c'est comme ça que je la comprends. Mais il y a une autre percée du temps, c'est après la mort. Oui, d'après le Coran, nous retrouverons ce créateur qui nous a envoyés vers l'existence par Rahma, c'est-à-dire, on dit amour, le mot compassion, miséricorde ne valent pas, c'est un amour presque quadruple, parce que c'est l'image de la matrice. Elle est protectrice, un amour protecteur. C'est nourricier, il y a le cordon ombilical. Et c'est rayonnant, comme dit Maurice Glouton, c'est-à-dire la matrice s'adapte à la croissance du fœtus. Et donc, il y a tout cela à la fois. C'est un amour protecteur, nourricier, rayonnant. C'est ce triple amour qui préside à notre présence au monde. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde et après qu'il nous rappelle à lui. Donc le fait de percer le temps des deux côtés projette l'être humain dans une autre dimension qui lui confère une autre appréhension de sa présence sur terre. Je cite le Coran. Mais j'ai consulté les autres traditions spirituelles, je m'en suis imprégné et ça m'a nourri. Donc il y a des vibrations, des résonances dans le christianisme, le judaïsme, fatalement, c'est la même région, la même lignée, mais dans l'hindouisme, dans le bouddhisme et dans des religions dites primitives que j'ai découvertes dans des histoires de religions comme de Mésil ou Mircea Eliade, etc., etc.
Quand vous parlez de vision du monde, c'est le croisement, ce sont les tenants de ces différentes visions du monde. Un germanophone aurait parlé d'une Weltanschauung, je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais en tout cas, il va y avoir une éthique du partage, de cette entrée en résonance de ces différentes visions du monde. Et c'est dans la partie où vous parlez de l'amour entre impasse et issue. Reprenons un titre d'un des chapitres de votre ouvrage.
Tout à fait.
C'est-à-dire que l'amour, finalement, est en quelque sorte enchâssé entre les impasses quotidiennes et différentes issues salvatrices.
Mais tout à fait, tout à fait. Et dans ce sens, c'est pas que j'avoue ou je me confesse, non, j'assume. J'ai cité Simone de Beauvoir et Sartre, j'ai cité des surréalistes, Antonin Artaud et d'autres. Ben, je vibre avec eux plus qu'avec des écrits de certains théologiens musulmans. C'est-à-dire quand la théologie devient un système, qui collectivise, excusez le néologisme, les âmes, les singularités. Moi, je dis non, ou bien je souhaite mourir, disparaître, parce que je ne supporte plus, je suffoque. Ou bien je me rabats sur d'autres auteurs qui se sont donné cette liberté de prospection. Donc la recherche du sens n'est pas l'apanage des croyants. Mais il se trouve que parmi les croyants, il y a des gens qui cherchent plus la spiritualité, le lien intime à Dieu, que le fait d'être conforme aux fidèles à un certain passé. Et personnellement, je préfère être avec les libres, pas les libres penseurs, mais ceux qui pensent librement, qui assument leur vie librement, qu'avec les « formatés », entre guillemets.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le poète Khaled Roumou, nous parlons du Coran déchiffré selon l'amour. Khaled Roumou, maintenant qu'on rentre in medias res, dans le vif du sujet, un des passages de votre ouvrage est intitulé Les facettes infinies de l'amour. Et donc, vous commencez déjà par la création.
Oui.
Et donc, vous parlez de l'amour comme une création originelle, novatrice, c'est l'amour qui est novateur, et vous parlez aussi de l'amour-adoration.
Oui.
Alors, et ça ne s'arrête pas là, il y a aussi l'amour-tentation, l'amour-épreuve, et l'amour aussi comme le siège, c'est le cœur qui est le siège de l'amour et de la raison.
Oui. Si on est possédé par ce besoin d'amour qui fait notre vie. Et alors, je sors du cadre de l'islam et je pense à Jésus. Pour moi, le pain quotidien, cette célèbre prière d'origine juive que Jésus apprenait à des disciples juifs et que c'est devenu la prière du christianisme par excellence, il parle du pain quotidien. Bon, avant, je voyais que le côté formel, mais plus j'avance, plus je dis, mais le pain quotidien, c'est l'amour. C'est pas autre chose, c'est ça qui nous donne de l'élan, c'est ça qui donne un goût à notre vie, un parfum. C'est ça qui nous motive à se lever le matin pour reprendre la tâche, et si possible, avec entrain. Si j'examine le mot Allah, qu'on nous renvoie à la figure parfois comme si c'était la propriétaire des musulmans, alors que c'est le terme qui désigne Dieu en arabe pour toutes les langues ou pour tout chercheur qui veut juste nommer cette entité.
C'est la divinité en langue arabe, avec la contraction entre l'article « al » et le mot « ilah ».
Ilah.
Dieu, petit « d ».
Qui vient d'une racine « alaha ». Alors, heureusement que l'arabe, comme toutes les langues originelles, a gardé son étymologie. On va regarder dans le dictionnaire d'une manière neutre pourquoi ses ancêtres, parmi tant d'autres, ont choisi ce terme-là pour désigner cette entité que l'un d'entre eux a découverte un jour. Et il en a parlé. Pour décrire l'invisible. Alors, cette racine est d'une richesse telle que un auteur comme El-Razi, philosophe et soufi et théologien, a consacré une trentaine de pages, par exemple, ou une quarantaine, juste pour cette racine. Alors, je résume. Elle veut dire l'aspiration intense à l'absolu.
Al-Wala.
L'émerveillement, l'étonnement, la perplexité, parce qu'on ne sait plus quoi penser. Ou bien on est tellement submergé de beauté et de vérité et de bonté que on a la bouche bée, comme on dit en français, simplement. Elle veut dire aussi l'angoisse de la séparation. Elle veut dire aussi la joie des retrouvailles. Et je laisse passer d'autres connotations. Alors, quand on voit que cette entité qu'on appelle Dieu tire son nom de toutes ces relations-là à l'humain, mais on ne voit que l'amour. Et pour résumer, le dictionnaire Lisan al-Arab en tant de volume,
la langue des Arabes d'Ibn Mandour,
voilà, et qui est tunisien d'origine, eh bien, il donne un exemple. Si les parents perdent leur enfant, qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent al-Ala ou al-Wala. Mais pourquoi ils ont cette angoisse? Mais parce qu'il y a l'amour, il y a l'attachement. Et l'enfant aussi, il ressent la même chose. Et donc, ils partent de cette relation humaine pour nous faire comprendre après comment il faut évoluer jusqu'au niveau, je veux dire, il n'y a pas de niveau, à l'infini, dans cette relation amoureuse complexe, pénible. Marie a dit, « Ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya », j'aurais souhaité être morte et complètement oubliée, c'est-à-dire oubli sur oubli. Pourtant, elle allait mettre au monde Jésus, elle savait quelle était sa valeur, et l'ange lui avait parlé, enfin, elle avait toute la sécurité nécessaire du côté de Dieu, mais il y avait l'épreuve d'affronter les humains avec cela. Et donc, ce n'est pas facile. La relation à Dieu n'est pas du tout facile.
Alors, quand vous parlez de la relation amoureuse, vous commencez d'emblée par la racine RHM, Rahim, oui. Donc l'amour matrice, qui est l'amour utérin, en quelque sorte, l'amour de toutes les amours, à la fois un amour expansif et un amour rayonnant.
Oui.
Et diffus.
Exactement, mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette triple dimension, mais il y a plus. On a tort de mais peut-être il n'y a pas un mot français qui traduise « rahma ».
Alors, on traduit généralement par miséricorde.
Oui, mais c'est pas ça. Et c'est la même racine existe en hébreu. Et mes amis juifs, avec lesquels j'échange beaucoup, ils me disent non, nous ne sommes pas d'accord.
André Chouraki a traduit Dieu matricien, matricielle.
Oui, mais c'est pas beau en français.
Et il est allé à l'étymologie des mots en hébreu ou en arabe, alors que généralement on traduit le sens.
Et moi, je crois qu'il faudrait un poème. Parce que le poème donne des images. Il y a la protection, il y a l'abri, le refuge, il y a la nourriture au quotidien, et il y a aussi ce rayonnement. Moi, je salue Maurice Glotton dans sa traduction du Coran. Alors, récemment, justement, quand on sort du formel, du quotidien, de l'habitude, il est tout à fait normal de trouver la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le Rahman ar-Rahim, au début de chaque sourate du Coran, à part une. Mais aussi, chaque fois qu'on veut réciter un bout du Coran, de commencer par ça. Mais à force de l'entendre, on en perd le sens.
Et comment vous traduisez dans ce cas Rahman ar-Rahim?
Non, je me dis, mais c'est évident qu'il faut commencer par cette formule. Parce que on a dit ce que ça veut dire Allah. En plus, quand on dit Bism au nom de, et on sait que le ism dans les cultures traditionnelles révèle le mystère, le secret, le profil spirituel, le destin de l'être humain. Dans les religions traditionnelles, il y a des séances d'initiation, ça existe jusqu'à maintenant en Afrique. Mandela a reçu son nom secret. Juste l'initiateur communique à l'enfant son nom et qu'il ne révèle à personne. Donc le ism, qui vient de Samawa, le ciel, désigne le niveau le plus élevé de l'être qu'on évoque. Donc, si on invoque le ism de Dieu, Allah, on a Ar-Rahman. Ar-Rahman, dans le Coran, c'est l'être, je vais dire être de Dieu, être, il est, qui est le roi d'amour. Parce que chaque fois que ce mot est cité dans le Coran, et ça, je suis tombé par hasard, en compulsant mon lexique, j'ai découvert qu'il est lié au pouvoir de l'amour. Que le pouvoir est à l'amour malgré tout ce qu'on peut voir sur terre de dommages et de catastrophes. Il régule le mouvement de l'univers et nos vies. Donc c'est l'amour protecteur. Je suis l'ami du roi. Et Rahim, c'est dans sa relation à nous. Et alors le mot Rahim, c'est toujours lié au pardon, à l'effacement des péchés, à la compréhension de notre fragilité. Donc on peut dire au début, mais pourquoi deux adjectifs, deux attributs qui sont de la même racine? Mais quand on lit le texte de près, on voit la différence entre Rahman et Rahim. Rahim, c'est une relation personnelle, personnalisée à chaque être humain, pour sauver sa singularité.
Est-ce que pour vous, une traduction de cette formule propitiatoire qu'on prononce au début de chaque sourate, sauf la sourate 9, comme vous l'avez précisé, et aussi avant d'entamer ou de commencer tout acte notable, une traduction de type « au nom de Dieu » ou « par le nom de Dieu », le tout miséricordieux, le très miséricordieux vous convient?
Mais non, parce qu'il y a la misère dedans. c'est pas une relation ici de l'être humain n'est pas misérable. Quand Dieu l'a créé, il l'a ennobli. Au-dessus de tous les êtres de l'univers, pas simplement de...
Et ici, là, c'est pas pour focaliser sur la misère, c'est pour dire qu'il y a une place dans le cœur de quiconque, y compris de l'être divin, à laisser place à la compassion et à l'amour et à la bonté.
Oui, alors compassion, c'est la passion dans le sens négatif. C'est-à-dire, on n'en sort pas. C'est-à-dire, vraiment, il faut sortir du cas des langues indo-européennes et aider nos concitoyens français à s'évader un peu pour se placer dans un autre univers, une autre vision du monde qu'on appelle sémitique, abusivement, et dont l'hébreu, l'araméen et l'arabe sont les témoins. Il faudrait changer d'image, il faudrait changer de représentation. Si Dieu a ennobli l'être humain, si bien que l'esprit du mal, Satan, Iblis, en était jaloux jusqu'à jurer sa perdition, c'est parce que il a cette noblesse, cette dignité, l'être humain. Malgré toutes les vicissitudes par lesquelles il passe, il est voué à cette noblesse. Et c'est à partir de cette noblesse que Dieu nous aime. Après, évidemment, quand on chute, quand on tombe, il nous relève. Mais l'amour fondamental, c'est un amour, j'allais dire, pas d'égalité, un amour de face à face. Puisqu'il nous demande d'assumer ses attributs, de les incarner, pour utiliser un terme chrétien, de les attahakok, d'en faire notre vérité.
Et de réaliser.
Et de réaliser, comme disent nos frères bouddhistes. Raison de plus pour qu'il nous regarde en face. Et c'est là où réside notre noblesse. Et donc, je pense à François d'Assise, que j'aime beaucoup, c'est mon préféré, mais j'aime les autres aussi, saints chrétiens et saintes. Vers la fin de sa vie, alors qu'au début, vous savez, il était tout enthousiasme pour reconstruire la chapelle, pour quitter son père, pour dire à son père, bon, ses vêtements, ils vous appartiennent. Et il s'est dénudé devant l'évêque, il s'est mis à poil, l'évêque l'a couvert. Et vers la fin de sa vie, il courait dans la nature, il disait à Dieu, parle-moi, parle-moi. Rechercher cette noblesse, cette dignité que Dieu lui avait conférée à travers cet amour réciproque entre lui et Dieu. Et donc, c'est à partir de là que moi, je comprends le mot « rahma », mais pas à partir de nos défaillances et de nos faillites. C'est à partir de cette noblesse qui nous est conférée.
Vous avez pris l'exemple del Poverello, et je ne me retiens pas d'évoquer sa rencontre avec le sultan Malik al-Kamil, oui, en 1219 à Damiette, et qui était, parce que ça vous est cher, la rencontre entre deux hommes de foi, un sultan d'un côté et un homme qui a voué sa vie à la fois à l'ascèse, à l'obéissance et à l'amour de Dieu. Khaled Romo, il y a aussi un passage coranique qui fait partie, en tout cas des tout débuts versets coraniques. Il y a un mot qui parle de l'attachement, de la dépendance, mais qui est un mot très polysémique. Et là, vous le décryptez aussi selon une lecture amoureuse. C'est le fameux mot qu'on traduit généralement par adhérence ou un caillou de sang. Oui. Mais vous lui donnez plus que cela comme signifiant.
Je dois ça à un ami turc que j'ai rencontré à la cité universitaire quand j'étais chercheur. Je continue toujours. Mais alors, il me dit, mon imam, leur imam en Turquie, nous a dit, ils sont fous les Arabes. Pourquoi ils traduisent « alaq » simplement par « caillot de sang » ?« Alaq » est un mot de poésie par excellence. Tous les poètes utilisent ce terme-là. « Ta'alaqa qalbi tuflatan » etc. etc. Et c'est l'attachement.
Alors traduisez-nous au moins le passage de ce... « Mon cœur s'est attaché à une jeune fille ».
Oui, voilà. Et donc, il partait des amours humaines pour parler de l'amour divin. Et alors, la première révélation, d'après la tradition faite au prophète, c'est que Dieu a créé l'être humain d'attachement, d'adhérence. Alors, si on traduit dans le sens biologique, ça marche. Oui, caillot de sang, évidemment. Mais aussi, si l'être humain ne s'attache pas à quelque chose, il n'est pas, il n'est plus. Or, la synthèse... On fait le bilan des attachements. Il y a le cosmos, on est attaché au cosmos. L'attirance que les étoiles exercent sur nous, la lune, le soleil, etc., la nature. On est attaché à l'espèce humaine, on ne peut pas en sortir.
s'il faut choisir, parce que traduire, c'est choisir aussi le sens et le contracter.
Donc, il y a des humains qui s'attachent à Dieu, parce qu'il s'est saisi d'eux. C'est comme ça qu'ils décrivent l'expérience. J'ai essayé, bien sûr, quand ça m'est arrivé, juste discrètement, je voulais comprendre. J'avais 23 ans. Moi, je ne demandais rien, mais la vie me pesait. Je ne demandais rien et la chose est arrivée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis rationaliste, j'ai fait des sciences, les sciences, j'ai fait SPCN en France, physique, chimie, etc., géologie.
Ce qu'on appelle les sciences dures,
exactement,
les sciences exactes ou les sciences pures.
Alors, je savais en parler un peu de la psychanalyse, j'étais bien armé, littérature française, et pour moi, la religion et Dieu, walou, en bon latin. Bref. Et la chose m'arrive, je voulais comprendre. Alors, on étudiait Mircea Eliade, l'aspect des mythes, et après, je me suis dit, et si je jetais un coup d'œil sur le Coran, après les évangiles, la Torah, la Bhagavad Gita, Gandhi, etc. Et alors, après Mircea Eliade, Dumézil, je découvre qu'il y a un autre univers que celui de cette rationalité dans laquelle une certaine rationalité. J'étais éduqué en Syrie, mon pays d'origine. Et petit à petit, la chose est devenue objective pour les gens qui en sont concernés. Mais elle reste profondément subjective, dans la mesure où on ne peut pas, même si on réunissait tous les rabbins, tous les imams, tous les prêtres, pasteurs, etc., les gourous, on ne peut pas créer une substance. Je matérialise les choses, que si on inocule une piqûre à un être humain, lui occasionner la chose, ce n'est pas possible. Cette chose est objective au niveau des gens qui en parlent. Mais elle reste strictement subjective pour des personnes qui n'en ont pas fait l'expérience. D'où la nécessité de respecter la conscience humaine telle qu'elle est et de ne pas s'en mêler. D'ailleurs, dans le Coran, il est interdit, strictement interdit, même aux prophètes, de contraindre les âmes, les cœurs et les esprits. Ce que, hélas, beaucoup de musulmans oublient pour balayer devant notre porte. Alors, cet attachement au divin, c'est le premier verset révélé au prophète. Lis, c'est-à-dire interprète ta vie, interprète, déchiffre. Lis, c'est pas lire un livre, parce qu'il n'y avait pas de livre à la grotte où le verset fut révélé. Lis au nom de ton Seigneur qui créa, il créa l'être humain à partir d'une adhérence, d'attachement.
Le verbe lire, l'ordre, l'injonction, qui donnera Coran d'ailleurs,
oui,
n'est pas nécessairement une lecture, c'est aussi une proclamation, un prêche, un appel, un rassemblement dans une autre acception et aussi une diffusion.
Ce que j'aime en premier, c'est le rassemblement, parce que ça nous concerne. Les imams spirituels, de facture spirituelle, les soufis, ils disent, vous ne comprenez pas le Coran si vous n'êtes pas convaincu qu'il vous est révélé personnellement. Il y a beaucoup de musulmans qui se cachent derrière le prophète, en pensant, il se fuit réellement. Donc, rassembler quoi? Rassembler les miettes de souvenirs, les éléments épars de nos expériences authentiques, les mettre ensemble et voir comment un faisceau de lumière se constitue et il nous renvoie vers la source, vers l'absolu. Mais c'est à chacun de faire l'expérience ou de ne pas la faire. En tout cas, sans cette opération de rassemblement, c'est, dans le dictionnaire, c'est réunir les éléments épars d'une chose. Et le mot français « lire » vient du latin, c'est cueillir des fruits et les mettre dans un panier. C'est exactement la même action. Mais c'est une action intérieure que chacun doit faire. Sinon, on ne se comprend pas.
Alors nous sommes toujours sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le poète Khaled Roumou. Aujourd'hui, nous parlons du Coran déchiffré, décrypté, lu dans le sens que vous avez indiqué, Khaled Roumou, selon l'amour.
Oui.
On peut toujours décliner les différentes facettes de l'amour infini, vous-même vous le dites. Il y a l'amour attendrissement, l'amour donc tendresse, l'amour commisération et douceur.
Oui.
Mais que répondez-vous à ceux qui extraient hors contexte tel ou tel passage, dit belligène, de facture martiale, violent, ils s'en prévalent pour agir d'une manière totalement antinomique avec cette idée de l'amour qui transparaît dans tout le corpus coranique?
Je dirais d'abord, je désapprouve leur action, mais je ne veux pas les juger. Dans la mesure où, pour que l'être humain vive sa méchanceté, pour parler comme les enfants, il n'a pas besoin de religion. Pour qu'il fasse la guerre, pour qu'il détruise au lieu de construire, il invoque toutes les idéologies possibles et imaginables, tous les systèmes. C'est-à-dire les deux guerres mondiales qui se sont faites à l'échelle du monde, elles n'étaient pas basées sur la religion. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des millions et des millions de victimes que ce n'est pas de la violence, du terrorisme. Je veux dire, ce n'est pas parce que le nombre est exorbitant qu'après ça devient ordinaire. L'islam, comme d'autres religions, comme d'autres visions du monde, est instrumentalisé par certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de maturité, d'équilibre pour gérer des problèmes réels qui leur pèsent. Et à ce moment-là, vraiment, c'est abusif, c'est injuste de mettre 15 siècles de culture, de civilisation, d'histoire, certes complexe, je ne veux pas les sacraliser ni les idéaliser, mais une contribution à l'œuvre de l'humanité, de leur mettre cette étiquette de religion terroriste, etc. Comme si l'islam était essentiellement terroriste, alors qu'en réalité, l'islam, c'est la phrase que Jésus a dite dans Notre Père, que votre volonté soit faite, c'est-à-dire se remettre à Dieu.
Khaled Roumou, vous ne vouliez pas réduire l'être à son acte et donc vous ne jugez pas, mais vous désapprouvez.
Ah, je désapprouve fortement.
Et vous condamnez l'acte et vous dites que l'islam, comme religion, comme représentation du monde, a été idéologisé, instrumenté ou instrumentalisé, domestiqué à d'autres fins que spirituelles et celles d'amour. Et comment répondez-vous à ceux qui objectent que ben, il y a ce qui a rendu des parties dans cette tradition religieuse manipulables?
Oui, vous savez, la constitution de la République aussi, il y a des éléments que le colonialisme a utilisés par... Non, ça, je veux dire, il suffit de comparer l'histoire des peuples arabes et musulmans à l'histoire des autres peuples pour tirer la conclusion soi-même. Ceux qui attaquent cette civilisation, cette histoire, d'une manière tendancieuse, ils sont coupés de l'histoire de l'humanité. Moi, je crois qu'il faudrait utiliser les mêmes outils de mesure pour juger les actions humaines. Le Japon, c'est un pays magnifique, une culture, une religion, une spiritualité, mais regardez ce qu'il a fait à la Chine, à la Corée. Le Cambodge, les États-Unis, ils soutiennent les Khmers rouges. Il y a eu des millions de morts au nom d'un pragmatisme politique. Mais tout cela, il est fait au nom de quoi?
Je reviens donc à votre ouvrage et à ses différentes déclinaisons. Alors, quand vous parlez de l'amour-regret, de l'amour-aliénation ou dette, quand vous parlez aussi de l'amour-soif, l'amour-folie, l'amour comme égarement et errance et l'amour éperdu. C'est qu'on peut arriver à des considérations, vous pardonnez le terme, pathologiques dues à l'amour.
Et oui, évidemment. Et ce n'est pas que dans la littérature qui décrit, moi je tire la couverture là de nouveau à cette expression, mais c'est dans le Coran. Et il est décrit comme « shifa on lima fi sudur », c'est-à-dire une guérison pour ce que les poitrines, c'est plus que le cœur, contiennent comme maladie, évidemment. Et alors c'est curieux, tout à l'heure j'ai cité le livre de Duras, « La maladie de la mort ». Et c'est dans les évangiles, dans le Coran, vous étiez mort et il vous a redonné la vie. C'est-à-dire mort à l'amour, mort à l'essence de vous-même. Et le message de Jésus, le message de Mohammed comme les autres messages, Bouddha, alors, je ne citais pas d'autres noms, enfin, vous comprenez l'ouverture de... C'est vraiment une opération de guérison. Que de dire à l'être humain, vous n'êtes pas infirme, vous êtes capable d'amour. Mais simplement, il faut déblayer les canaux, il faut ouvrir les robinets et il faut vous connecter. Mais cet acte, c'est un acte libre. Il n'y a pas d'imitation dedans. Il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de fusion. Il faut que chacun s'assume dans ce sens. Mais c'est très difficile, je l'avoue. Mais c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors si vous permettez,
je vous en prie,
je voudrais vous lire un poème qui décrit cette recherche, cette soif, cette maladie. Je l'ai composé en arabe, après je l'ai réécrit en français. Bah, je vais dire juste une strophe en arabe, après on dit « Ka'annani fi yadika qithara tabouhu bil anghami tara wa taktumu l'anfasa tara wa rubbama l'qalba btalat fa qatta'at awtara » C'est destiné au responsable en chef de ma présence au monde, n'est-ce pas? Il dit « Une cithare dans tes mains. Tu me mets face au néant, je deviens larmes et sang, et assiste à ma naissance, puis je tais ma souffrance pour en lire les nuances. Dans tes mains suis-je une cithare qui se prête à ton art et traduit ta musique, tantôt libre et fluette, tantôt étranglée, muette, et mon cœur né pour la fête, faut-il que tu le tordes à en couper les cordes? Jusqu'où ira ton jeu, tantôt proche, tantôt distant, toi auquel aspire tant, à mot voilé ou dévoilé, mon âme, tu en es témoin. Mon âme épuisée à faire le chemin entre une terre tangible et des cieux inaccessibles.
Khaled Roumou, merci en tout cas, vous avez ce don de versification et de prosodie. Et vous avez réussi à rendre et retrouver l'assonance rimée du texte arabe.
C'est-à-dire, j'aime la langue française, j'aime beaucoup les langues en général, et c'est une ivresse que vraiment découvrir les ressources d'une langue, qu'elle soit l'arabe ou le français.
Alors, en réalité, nous n'avons pas encore fini de passer en revue toutes les acceptions, tous les sens du mot « amour », notamment contenu dans le Coran, l'amour inclination, l'amour intimité, l'amour amitié privilégiée, amour confidence et épanchement. Vous parlez aussi de l'amour comme blessure, comme excès et débordement. Mm-hmm. Ne pourrait-on pas vous objecter, cher Khaled Roumou, que vous n'avez fait que, pardonnez-moi le terme, imposer d'une manière comme ça, drastique, le vocable amour sur les différents sentiments humains?
Moi, je le prends comme un compliment, pas comme un reproche. D'ailleurs, prenons le mot « amour » tel qu'il est traduit en arabe. Le mot français, c'est « hub ». Le « hub », ça vient de « habba », c'est-à-dire le germe. Et là, c'est l'amour germination. C'est comme si Dieu plante en nous une semence, il met une semence, et cette semence n'arrête pas de grandir. De grandir, mais à l'infini. Et il y a une image coranique qui dit « Mathalu kalimatin tayyibatin », l'exemple d'une bonne parole, parce que nous sommes une parole. Chacune est une parole à part. C'est comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre et les ramures touchent le ciel. Et on sait que le ciel n'a pas de fin. Donc ce germe, cette semence, elle est destinée à nous faire grandir. Et Rumi le dit, il dit, nous étions, c'est étrange, hein, au XIIe siècle, nous étions du minéral. Nous sommes devenus du végétal, après animal, après humain. Un jour, on va accéder au rang de l'ange, après nous dépasserons l'ange. Il le dit dans une vision, dans le livre du dedans et dans son recueil Al-Mathnawi. Mmh.
Vous avez évoqué la parabole coranique de la bonne parole, c'est la sourate 14 d'Abraham. Parce que ce qui est antinomique à cela, c'est qu'une mauvaise parole, c'est comme si ce même arbre a été planté à l'envers, donc il est déraciné, il serait enclin assurément au dessèchement et à la pourriture.
Tout à fait, c'est le figuier dont parle Jésus, qui ne donne pas de fruits.
Khaled Roumou, nous approchons du terme de notre émission ce matin. Finalement, vous avez fini votre ouvrage par parler davantage, cette fois-ci, de l'amour quiétude, tranquillité, de l'agrément, de la paix intégrale et de la remise de soi. Mmh. Il y a une sorte, une fois qu'on a atteint à ce degré d'ataraxie, comme disent les Grecs, d'absence de troubles intérieurs, il y a déjà une plénitude dès ici-bas.
Oui, mais c'est des instants, c'est toujours l'éphémère. C'est le courant alternatif. J'ai parlé tout à l'heure de François d'Assise. Il n'était pas l'une des moindres figures. Et pourtant, le pauvre, oui, le pauvre, il courait en disant « parla mia, parla mia ». Cet état de quiétude, c'est dans l'autre vie. Mais on a des, on dit en arabe, des ansam, de temps en temps des souffles. Et il y a un hadith du prophète qui dit « Lorsque vous ressentez ces souffles, exposez-vous de tout votre être. » Ah, donc pour vous en imprégner. Et je retiens juste l'amour agrément à Rida. Et c'est extraordinaire quand on se penche sur le texte, mais vraiment, j'allais dire, oui, puisque j'ai fait littérature d'une manière littéraire critique. Évidemment, nos savants ont lu le texte de cette manière-là. Il y a des trésors d'exégèse. C'est réciproque. Radiallahu anhum aradouan. Dire Dieu les a agréés et eux aussi l'ont agréé. Mais vous vous rendez compte, mon cher Aleb, le rang que Dieu donne à l'être humain, il lui accorde la possibilité de dire « Oui, Seigneur, je suis content de toi. » Et tant que je ne le suis pas, ben je suis dans la controverse avec toi. Et l'être humain est celui qui controverse le plus. Mais il nous a donné ce droit. Si les choses dans notre vie, dans notre intimité, ne sont pas dans l'authenticité selon laquelle il nous a créés, il faut le lui dire, sinon on tombe dans l'hypocrisie. Et donc c'est sa responsabilité. Il est responsable vis-à-vis de nous pour nous mettre dans cette noblesse, dans cette authenticité. Et tant que ça ne marche pas, on a le droit de réclamer. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Dieu a prescrit, votre Seigneur sur lui, d'être rahim avec vous.
Donc vous ne traduisez pas par miséricordieux, non. Nous l'avons compris. Ce que vous évoquez à propos de l'agrément, de la satisfaction, me fait penser à ces tout derniers versets de la sourate de l'aube, qui généralement sont lus quand il y a un décès. Ô âme désormais apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Question d'islam avec le poète Khaled Romou. Aujourd'hui, nous avons parlé du Coran décrypté, déchiffré, lu selon l'amour. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée par Alain Joubert. La réalisation, c'est Franck Lilin.